Dimanche 9 juin. Josie émerge brusquement d'un rêve peu profond. Un mirage si proche de la surface de sa conscience qu'elle peut presque le contrôler. Elle est au Lansdowne. Alix Summer est là. Elle l'invite à rejoindre sa table, sur laquelle se trouvent des plateaux de fruits extravagants. Ses amis partent. Le pub est vide. Josie s'assied en face d'elle et Alix lui susurre « J'ai besoin de vous. » Puis Josie se réveille. À cause des bus. Ce sont toujours eux qui la réveillent. Ils habitent juste derrière un arrêt de bus dans une rue passante et sale située à la frontière entre Kilburn et Paddington. Selon un site consacré à l'histoire du quartier, les grandes demeures victoriennes qui l'abordent ont été construites en 1876 pour des commerçants fortunés. Cette rue menait à l'époque au bain de Kilburn Priory et résonnait du chaos des calèches et du martèlement des sabots de chevaux. De nos jours, chaque villa a été divisée maladroitement en plusieurs appartements et les façades en stuc ont pris la couleur des vieux papiers journaux à cause de la circulation incessante. Puis il y a les bus. Trois lignes empruntent cette rue et toutes les deux minutes, l'un d'eux passe ou s'arrête devant chez eux. Le chintement des freins hydrauliques quand ils s'immobilisent est si puissant que parfois le chien va se cacher dans un coin. Josie regarde son réveil. Il est 8h12. Elle écarte les lourds rideaux de deux nains et jette un coup d'œil au dehors. Elle ne se trouve qu'à quelques dizaines de centimètres des visages des passagers qui ne remarquent pas la femme qui les épie à la fenêtre. Le chien la rejoint. Elle pose sa main sur sa tête. « Bonjour, Fred. Elle a un peu trop bu hier. Une demi-bouteille de champagne, puis un verre de sambuca pour terminer le dîner. Bien plus que ce dont elle a l'habitude. » Elle entre dans le salon. Walter est installé à la table à manger sous la fenêtre qui donne sur la rue. « Bonjour. » La salue-t-il avec un petit sourire, avant de dévier le regard vers l'écran de son ordinateur. « Bonjour. » répond-elle en passant dans la cuisine. « Tu as nourri le chien ?»«
Oui, c'est fait. Et je l'ai sorti aussi. »«
Merci, » répond-elle avec gratitude. Fred est son chien. Walter n'en voulait pas, et surtout pas d'un petit chien de sac à main comme Fred, un pomchi. C'est donc elle qui en est responsable, et elle remercie son mari dès qu'il l'aide. Elle se prépare des tartines et une tasse de thé, et s'installe confortablement dans le petit canapé qui se trouve dans le coin de la pièce. Quand elle ouvre son téléphone, elle se souvient des recherches menées sur Alix Summer jusqu'à tard la veille. Cela explique pourquoi elle rêvait d'elle quand elle s'est réveillée. Alix Summer, apparemment, est une journaliste et créatrice de podcasts relativement connue. Elle a 8000 abonnés sur Instagram et autant sur Twitter. Sa bio indique « Maman, journaliste, féministe, fouineuse professionnelle infatigable, yogi ratée, londonienne amoureuse de Queen's Park. » Puis il y a un lien vers la page de son podcast, Toute femme, pour lequel elle réalise des entretiens avec des femmes inspirantes qui parlent de leur réussite. Josie reconnaît certains noms, une actrice, une présentatrice, une athlète. Elle commence par un épisode avec une certaine Marie Lejeune, qui est à la tête d'un empire cosmétique. Dès l'introduction, la voix d'Alix est douce comme du velours et Josie comprend pourquoi elle s'est tournée vers cette carrière.
« C'est quoi ça ?»
lui demande Walter. « Un podcast. C'est celui de cette femme, Alix, à qui j'ai parlé hier au pub. Ma jumelle d'anniversaire. C'est son métier. » Elle reprend son écoute. L'invité, Marie, évoque son mariage, très jeune, avec un homme qui la maintenait sous son emprise.
« Il contrôlait tout ce que je faisais, » explique-t-elle. « Ce que je mangeais, ce que je portais. Il montait mes enfants contre moi. Mes amis aussi. Ma vie était devenue si petite, comme s'il l'avait pressée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule goutte de ma personne à l'intérieur. Puis en 2005, il est mort, assez brutalement. Soudain, j'avais l'impression d'avoir réinitialisé mon existence. J'ai découvert que pendant toutes ces années sombres passées avec mon mari, Quand je me croyais seule au monde, il y avait en réalité toute une ribambelle de gens à l'arrière-plan qui attendaient que je refasse surface depuis le début. Ils m'ont tendu la main et m'ont embarqué avec eux. Alix reprend la parole. Et si votre mari, et j'espère que vous ne trouverez pas cette question indélicate ou blessante, mais s'il n'avait pas disparu si jeune, que serait devenue votre vie selon vous? Est-ce que vous seriez parvenu à trouver le chemin qui vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que votre succès, ce que vous avez accompli, était écrit d'avance? Ou est-ce la mort tragique de votre mari qui vous a permis d'emprunter cette voie? C'est une question très pertinente, Alix. Et j'y pense régulièrement. J'avais 36 ans quand il est mort. Sa maladie a été diagnostiquée à un moment où je n'étais pas du tout assez forte pour le quitter. Inconsciemment, je crois que j'attendais que les enfants soient grands. Néanmoins, j'avais passé des années à rêver à ce que je ferais après la séparation. Les plans de ma vie sans lui étaient déjà dessinés, même si j'ignorais comment m'échapper de ce mariage. C'est possible, oui. Peut-être que je me serais engagée sur ce chemin sans son cancer. Mais ça a précipité les choses, je dirais. J'ai eu plus de temps pour construire mon entreprise, pour l'explorer, la nourrir et évoluer avec elle. Tout aurait été différent si j'avais attendu. Et si atroce que cela puisse paraître, la mort est une coupe franche. Il n'y a pas de zone grise, pas d'ambiguïté. D'une certaine façon, c'est une page blanche. Et cela m'a beaucoup aidée quand j'ai dû commencer à négocier l'infini des possibles qui s'offraient à moi au cours des premières années. J'en serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui s'il était encore en vie. Josie appuie sur pause. Sa respiration s'est progressivement accélérée et elle a le souffle court. La mort est une coupe franche. Elle jette un coup d'œil vers Walter, à l'autre bout de la pièce, pour voir s'il a entendu, mais il ne s'est rendu compte de rien. Elle relance le podcast. L'invité, Marie, est aujourd'hui propriétaire de 3 maisons dans plusieurs pays, emploie ses 4 enfants dans son entreprise familiale et est la fondatrice de la principale association de lutte contre les violences intrafamiliales au Royaume-Uni. Une fois le podcast terminé, Josie reste immobile un moment, laissant tout ce qu'elle a découvert sur l'existence extraordinaire de cette femme infusée en elle. Puis elle reprend son portable et passe un moment à faire défiler les derniers posts Instagram d'Alix. Elle y découvre, comme elle l'imaginait, une grande cuisine avec un îlot central, des enfants roux sur des plages balayées par le vent, des panoramas de Londres pris depuis des gratte-ciel, des cocktails, des chats et des vacances idylliques. Les enfants d'Alix sont jeunes, ils n'ont pas plus de 10 ans. Et Josie se demande ce qu'elle faisait pendant toutes ces années avant de devenir mère. Qu'est-ce qu'on fait à 30 ans quand on n'élève pas d'enfants? Que fait-on de ces journées? Elle s'arrête sur une photo d'Alix et de son mari. Il est grand, même comparé à elle, qui a déjà une taille supérieure à la moyenne. Et un filtre accentue la couleur de sa tignasse rousse et épaisse. La légende indique « 15 ans aujourd'hui que tu es entré dans ma vie, ça n'a pas toujours été simple, mais ça a toujours été toi et moi. » Avec une ribambelle de cœur rouge. Josie a des comptes sur les réseaux sociaux, mais elle ne poste rien. L'idée d'exposer sur Internet une photo d'elle et de Walter que tout le monde pourrait scruter et juger la met mal à l'aise. Mais cela ne la dérange pas que d'autres le fassent. Josie est une voyeuse accomplie. Elle ne poste, ne commente ou n'aime jamais rien. Mais elle regarde. Cette matinée de dimanche est chaude, étouffante. Nathan n'est pas au lit à ses côtés. Alix tente de reconstituer le puzzle que constitue leur soirée de la veille. Le pub, le champagne, la tequila, le trajet du retour à travers le parc, parler avec les canards de la ferme pédagogique à travers la barrière. Coin, coin. Nathan qui se sert un scotch. La chatte lovée sur ses genoux à elle, le parfum du diffuseur à bâtonnets des toilettes du bas mélangé à l'odeur de son vomi, un coup d'œil dans les chambres des enfants, leurs cils touchant leurs joues, les veilleuses, les pyjamas, le visage de Nathan à côté du sien dans le miroir, sa bouche contre son cou, ses mains sur ses hanches, baladeuses. Non mais t'es complètement fou! Puis au lit. Pourtant, l'oreiller de son mari semble ne pas avoir été touché. Se sont-ils disputés? Où dort-il? Elle sort doucement du lit et passe une tête dans la salle de bain. Il n'est pas là. Elle descend l'escalier et entend les enfants. Dans la cuisine, la télévision est allumée et Elisa la regarde, allongée dans le canapé avec Sky, couchée sur son torse. Léon est derrière l'ordinateur portable. Des restes de petit-déjeuner sont éparpillés tout le long du plan de travail, couleur crème.
« Où est papa ?»
Elisa lève les yeux vers elle, puis hausse les épaules.
« Léon, où est ton père ?»
Il retire son casque et plisse les yeux.
« Quoi ? Où est papa ?»«
Je sais pas. »
Alix sort dans le jardin. Sous ses pieds nus, les dalles de la terrasse sont déjà chaudes. Nathan n'est ni dans le cabanon, ni dans le studio. Elle attrape son portable dans la poche de son pyjama et l'appelle. Ça sonne, sans réponse.
« Tu l'as vu ce matin ?»
demande-t-elle à sa fille en retournant dans la cuisine.
« Non. Maman ?»«
Oui.
On peut aller à la librairie aujourd'hui ?»«
Oui, bien sûr. On fera ça tout à l'heure. »
Alix se fait un café, boit de l'eau et mange une tartine. Elle comprend ce qui est arrivé et sait à quoi s'attendre. Cela ne s'est pas produit depuis plusieurs mois, mais elle se souvient parfaitement de la façon dont ce cauchemar atroce et éreintant débute. La joie de son anniversaire, déchiquetée en lambeaux, est déjà un lointain souvenir. En buvant son second café, elle repense à quelque chose de la soirée de la veille. La femme dans les toilettes, sa jumelle d'anniversaire. Comment s'appelait-elle ? Elle ne s'est peut-être pas présentée. Alix se demande ce qu'elle fait ce matin. Est-ce que son mari s'est lui aussi silencieusement évanoui dans la nuit, la laissant se réveiller seule dans son lit ? Non, se dit-elle. Non, bien sûr que non. Les autres hommes ne font pas ça. Seulement le sien. Il revient à 16h, portant les mêmes vêtements que la veille. Dans la cuisine, il la frôle en allant ouvrir le réfrigérateur dont il sort un Coca Light qu'il boit avidement. Alix le dévisage. Elle attend qu'il parle.
« Tu t'es endormie tout de suite, mais moi j'étais encore à fond. Fallait que je...
continue à boire. »«
Oui. Enfin non, j'aurais pu boire ici, mais je voulais sortir, tu vois. »
Alix ferme les yeux et inspire profondément.
On est sortis hier, toute la soirée, de 18h à minuit. On a vu nos amis. On a bu pendant 6h. On s'est amusé, puis on est rentré. Tu as bu un whisky et il t'en fallait encore. Ouais, je crois. Enfin, j'étais vraiment bourrée. J'avais pas les idées claires. J'ai suivi mes pulsions, voilà.
T'es allé où?
Asso. Retrouver Giovanni et Rob. J'ai bu quelques verres avec eux.
Jusqu'à 16h,
j'ai pris une chambre à l'hôtel.
Alix grogne.
T'as payé un hôtel plutôt que de rentrer à la maison. J'en étais pas vraiment capable. Sur le moment, ça m'a paru être la meilleure option.
Il est dans un état épouvantable. Elle essaie de l'imaginer titubant dans les rues de Soho au milieu de la nuit, descendant verre après verre, puis à 4h du matin, chancelant dans le hall d'un hôtel, ses cheveux roux et ébouriffés, exhalant au visage du réceptionniste une haleine rendue fétide par une nuit d'alcool et un lourd repas. Puis s'effondrant dans un lit d'hôtel, dans une chambre vide, avant de se mettre à ronfler de façon tonitruante.
« Ils t'ont pas chassé à midi ?»
Il se gratte le menton, désormais recouvert d'une petite barbe poivrée sel, et fait la grimace.
« Ils ont essayé. Apparemment, il y a eu plusieurs tentatives pour me réveiller. À la fin, ils ont été forcés d'entrer, pour vérifier que j'étais pas mort, quoi. »
Il lui sourit d'un air bêta, et Alix sait que, quand ils étaient plus jeunes, ils en auraient ri. Ils auraient trouvé cela comique, un adulte buvant pendant presque 12h, disparaissant à Soho, obligeant les employés d'un hôtel à entrer dans sa chambre de peur qu'il ne soit mort, le découvrant étalé en mode étoile de mer dans le lit, à moitié nu, confus, encore ivre, répugnant. Elle en aurait ri. Mais plus maintenant. Plus maintenant qu'elle a 45 ans. Non. Maintenant, elle trouve cela écœurant.
La semaine suivante, Josie écoute presque 30 épisodes du podcast d'Alix. Elle découvre les histoires de femmes qui se sont sorties de tout un tas de calvaires. Maladies, relations toxiques, pauvreté, guerre, troubles mentaux, deuil. Elles perdent des enfants, des parties de leur corps, leur autonomie. Elles sont battues, humiliées, opprimées. Pourtant, elles se relèvent, l'une après l'autre. Elles reprennent pied et se trouvent des rêves qu'elles ignoraient nourrir. Cette série a été récompensée à plusieurs reprises, ce qui n'étonne pas Josie. Outre les histoires particulièrement inspirantes de ces femmes, l'approche d'Alix, tout en empathie, est si subtile et humaine qu'elle saurait rendre n'importe quelle conversation émouvante. Josie essaie d'en apprendre plus sur la journaliste sur Internet, mais ses trouvailles sont maigres. Elle n'a pas donné beaucoup d'interviews, et dans celles que Josie trouve, elle parle très peu d'elle. Elle se figure une femme qui s'est forgée toute seule, qui contrôle son destin. Si on l'interrogeait, elle raconterait certainement un parcours similaire à ceux des femmes auxquelles elle donne la parole. Josie s'imagine la recroiser, partager avec elle son histoire, écouter la sienne, et rêve qu'elle la conseille, l'aide à devenir la personne qu'elle a toujours su qu'elle était au fond d'elle. Puis un après-midi, Josie repère une nouvelle photo sur son fil Instagram. C'est un goûter d'anniversaire. Des ballons avec le numéro 11 flottent en arrière-plan. Sa fille est déguisée en fée et son mari se tient derrière elle, l'air fier pendant qu'elle s'apprête à souffler les bougies d'un grand gâteau rose. D'autres personnes l'entourent, les mains levées prêtes à applaudir, les visages figés dans un sourire. Josie zoome sur l'arrière-plan en croyant reconnaître quelque chose. Une photo d'école est posée sur le buffet derrière le groupe. Les deux petits vêtus du même polo bleu clair avec un blason bleu foncé. Les enfants d'Alix Summer vont donc à la même école que Roxy et Erin autrefois. Soudain, Josie ressent à nouveau cette étrange connexion, cette impression qu'une force cosmique les pousse l'une vers l'autre. Elle imagine Alix se tenir dans cette cour de récréation qu'elle a parcourue tant de fois, se rendre dans le même bureau surchauffé pour payer les voyages scolaires et la cantine, se serrer sur les mêmes bancs au fond du même petit foyer pour assister aux réunions générales et aux spectacles de Noël, faire sécher les mêmes uniformes bleu ciel et marine. Nés le même jour, dans le même hôpital, fêtant leur 45e anniversaire dans le même restaurant le même soir. Et maintenant, ça. Tout cela a un sens, elle en est certaine.